Bienvenue sur HTP Radio.
Hiver à Haute-Pierre.
Écoute, c'est pas quoi faire. Il fait froid.
Haute-Pierre, c'est l'hiver.
Écoute, HTP Radio.
HTP Zoo.
On change le climat, on passe du froid au chaud.
HTP Création.
Vas-y, c'est quoi?
Arrête de m'embrouiller.
HTP.
T'as capté le délire?
C'est chelou, hein.
La révolution médiatique, c'est le titre, le sous-titre de l'événement Automédia. Cette révolution qui s'opère depuis quelques années est due à la démocratisation des techniques et d'appareils numériques qui l'ont rendu possible, d'une part, et d'autre part, à la dérive d'une majeure partie du monde médiatique qu'on pourrait qualifier d'institutionnel, en proie à la corruption par l'argent, par le pouvoir et gangrénée par quelques acteurs industriels. C'est ça l'Automédia. Automédiatiser des récits, des images, des informations non traitées ou déformées par les médias dits mainstream. On parle aussi de médias dits dominants. Mais l'automédia n'est pas automatiquement du journalisme. Le rapport à la vérité, aux faits, à une certaine déontologie, etc., illustre souvent un fossé entre ces deux mondes-là, bien que celui du journalisme professionnel n'est pas exempt de la prolifération de fausses nouvelles, de fake news, et entretient lui aussi un rapport parfois ambigu, avec une certaine ambiguïté avec la vérité et sa propre déontologie. Comment atteindre une souveraineté numérique sans perdre en puissance médiatique? Je passe maintenant la parole à Zakaria, qui va animer le premier plateau de cette journée, les arts automédiatiques.
On accueille également Lucas Roxo, qui est journaliste indépendant et documentariste. Il s'est intéressé aux questions liées à la mémoire et à l'engagement et à la jeunesse, en s'installant durablement, lui aussi, dans des lieux marqués par ces problématiques, en France comme à l'étranger. Il s'est lancé en 2018 dans le cinéma participatif, avec un groupe d'habitants de la ville de Roubaix qui ont réalisé avec lui un film sur le devenir de leur quartier, en proie à un projet de rénovation urbaine. Lui aussi est également impliqué dans l'éducation aux médias, et il utilise des ateliers artistiques pour offrir des plateformes d'expression à des contextes ayant un faible accès aux médias. Il participe également au collectif La Friche, dont il est un des fondateurs, qui propose des projets éducatifs et critiques des ateliers médias.
Bonjour tout le monde. Du coup, pour retracer un peu le parcours et expliquer un peu l'endroit d'où je parle, moi je viens de banlieue parisienne aussi, mais un territoire très différent du 93, c'est les Yvelines. Je viens du 78. Et après, j'ai un parcours de journaliste assez classique, puisque j'ai fait une école de journalisme. Et à partir de l'école, après l'école de journalisme, j'ai commencé à bosser dans des médias mainstream, et qui a été une expérience compliquée et que j'ai pas trop appréciée. Et du coup, je me suis un peu assez vite dans mon parcours journalistique posé des questions sur ce que j'avais envie de faire. Et à l'époque, quand j'habitais dans le Nord, on avait avec d'autres élèves monté un projet médiatique, de médias de proximité, qui était un projet participatif qui était fait avec des habitants d'un quartier populaire de Lille et des étudiants et étudiantes de l'école de journalisme. Et un peu nourri de cette expérience-là qui avait été hyper riche, notamment parce que venant de l'école de journalisme et arrivant dans ce quartier pour proposer de monter un média, on s'était fait défoncer. Et à raison, mais c'était très, du coup, c'était très intéressant d'être face à ça, en fait, assez jeune. Et du coup, après, j'ai quitté un peu le monde des médias traditionnels et je suis rentré dans un média de proximité dans le 18e qui s'appelle Goutte d'or et vous, qui est un média interassociatif dans lequel je devais mettre en avant les informations des associations du quartier et animer des ateliers radio avec des structures du quartier, notamment des associations de jeunesse. C'était hyper intéressant, hyper intense. Et c'est l'année où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Et donc, c'est l'année où, en fait, du coup, le gouvernement et le discours public s'est saisi de la question de l'éducation aux médias et à l'information comme un enjeu important de la démocratie aujourd'hui. Et donc, c'est le moment où il y a commencé à avoir cette panique morale un peu généralisée, des fausses informations, des théories conspirationnistes. Et tout ça, et où du coup, ils ont commencé à mettre en place tout un tas de dispositifs pour en fait que de l'éducation aux médias à l'information soit faite dans différents types de structures. Et du coup, moi, j'ai fait un de ces dispositifs-là après mon expérience à Goutte d'or et vous. J'ai fait ce qu'on appelle une résidence de journaliste à des fins d'éducation média. C'est un dispositif du ministère de la Culture qui envoie un journaliste ou une journaliste dans un territoire pour faire de l'éducation média pendant un long moment. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un dispositif qui avait été inventé par Jérôme Bouvier, qui était le conseiller média de Fleur Pellerin, et qui est aussi le fondateur des Assises du journalisme, qui est lui-même qui était journaliste. Et en fait, il avait inventé ce dispositif-là, plus comme c'est aussi lui qui avait mis en place le Fonds social des médias de proximité, qui finance des médias locaux. Et il avait mis en place ces deux dispositifs, si ma mémoire est bonne et que je ne trahis pas sa pensée, pour améliorer le traitement médiatique des quartiers, c'est-à-dire pour qu'il y ait des journalistes de rédaction qui viennent dans des quartiers populaires et qui, en fait, reviennent dans leur rédaction avec de meilleures pratiques et de meilleures manières de raconter les quartiers. Et finalement, en 2015, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont relancé ce projet de résidence, il a plus été pensé dans une logique de permettre de lutter contre les fausses informations et les théories du complot. Ce que je trouve pas problématique en soi, ce que je trouve même très bien, mais du coup c'est intéressant de voir que le projet il a un peu changé de forme. Et au final, moi j'étais plus proche, je pense, de l'idée première de ce projet-là. Et ce qui s'est passé à Roubaix quand j'y étais, c'est que du coup j'ai fait des ateliers ou des projets avec tout un tas d'associations, de structures, d'écoles, et je me suis retrouvé à travailler avec ce collectif d'habitants. Qui était en plein projet de rénovation urbaine et qui avait la sensation d'être mis de côté de du processus de concertation et qui du coup avait décidé de monter son processus de concertation tout seul. C'était un collectif où il y avait selon les semaines entre une quinzaine et une quarantaine d'habitants, et en fait moi je suis arrivé parce qu'ils avaient besoin d'aide pour monter un journal pour raconter leur lutte, un journal qui s'appelait À Table. Et qui distribuait gratuitement dans les boîtes aux lettres du quartier, etc. Et ils ont fait plusieurs numéros, enfin, c'était super chouette. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre la lutte. Et du coup, ils nous ont demandé de réaliser un film avec eux pour garder une trace et une mémoire de toute cette lutte-là, parce qu'on avait fait plein d'archives au fil des mois. Et du coup, ça a été un processus de 2 ans à Roubaix, où à la fin, on a sorti un film dont l'objectif, enfin, on a fait du montage collectivement, etc. Et l'objectif de ce film, c'était vraiment qu'il soit didactique, quoi, qu'il puisse servir à d'autres collectifs en lutte. Et du coup, voilà, le film s'appelle Pile permis de démolir, et il raconte toute cette expérience-là. Et suite à ça, bien sûr, j'ai eu quelques problèmes avec la mairie de Roubaix. Et puis on a avec d'autres journalistes de ce territoire-là un peu saisi l'opportunité qui était ouverte par tous ces projets et par la résidence à Roubaix, parce que ça avait créé un vrai dynamisme, enfin il y avait une vraie dynamique dans la ville autour de cette question-là, de la question des médias, de s'auto-représenter et tout ça. Et du coup on a participé au lancement d'un média de proximité dans un lieu culturel à Roubaix qui s'appelle La Condition Publique, et qui est situé dans le quartier du Pile. Et du coup, où il y a deux journalistes avec qui on a du coup monté un collectif, qui ont lancé un média qui s'appelle le Labo 148, qui est un média jeune, en fait, qui a une forme assez hybride et expérimentale, mais où il y a une vingtaine, trentaine de jeunes des quartiers populaires de la métropole lilloise, donc Lille, Roubaix, Tourcoing, qui viennent toutes les semaines, qui produisent de l'information. Et il y a un peu de choses qui se passent en même temps, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui viennent pour faire des choses, pour imaginer de nouveaux formats, qui font de la radio, de la vidéo, du texte, etc. Et après, il y a des médias traditionnels, donc France 3, Hauts-de-France et TV5 Monde, qui viennent acheter des contenus réalisés par les jeunes. Et donc les jeunes sont payés aussi pour faire des contenus qu'ils vendent ensuite à des médias traditionnels. Et donc voilà, on a lancé cette expérience-là du Labo 148, qui sont gérés par deux journalistes, Julien et Sherazade. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on recevait beaucoup, beaucoup de demandes de plein d'institutions différentes pour faire des ateliers d'éducation aux médias dans des collèges, des lycées et tout ça. Et que l'éducation aux médias commençait à devenir vraiment à la mode, et que ça commençait à devenir vraiment un marché en fait économique, avec des gros opérateurs qui sont arrivés là-dessus. Et nous, on était un petit collectif de 4 à l'époque. Et par contre, on savait qu'on avait des valeurs dans l'éducation aux médias qu'on avait envie de mettre en avant, et que c'était important, avant que ça se développe un peu partout et que ça devienne vraiment vraiment quelque chose de dense et de généralisé, qu'il fallait qu'on essaye de mettre un peu de politique sur cette question-là. Et du coup, on a créé un collectif qui s'appelle La Friche, Et on a écrit un petit bouquin avec un laboratoire de recherche de Lille qui s'appelle Petit manuel critique d'éducation aux médias, où on essaye où le point de départ, c'est de rappeler que l'éducation aux médias à l'info n'existe pas depuis 2015 et n'est pas uniquement centrée sur les fausses informations, mais qu'elle est portée en fait par des médias de proximité et des associations d'éducation populaire depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Et qu'il y a plein d'expériences militantes, d'expériences d'éducation populaire qui ont été créées autour des médias et de la réappropriation de la parole dans les médias depuis 40 ans. Et nous, on disait qu'il fallait que l'éducation aux médias se construise en héritage en fait de ces structures-là. Et de dire que l'éducation aux médias ne sert pas juste à s'informer et à construire un chemin vers l'information, mais qu'elle sert aussi à construire des outils pour s'exprimer, et même plus que des outils pour s'exprimer, des outils qui vont permettre de visibiliser en fait, ces expressions-là. Pour pas que ce qu'on produit entre nous, que ce soit avec des jeunes ou des moins jeunes, ça reste vu seulement par les personnes qui l'ont fait, quoi. Le petit noir à tête rasée réapparaît. Moi non plus j'ai pas changé, toujours prêt à dégainer mon micro. Penché sur une table, envoie le morceau. Vérifie la console, qu'elle fasse bien son boulot. Ouais, c'est comme ça avec le mic et les sampleurs, au doigt et à l'œil. Alors qui c'est l'empereur? La MPC travaille pour moi très dur, et au moindre bug je la colle au mur, c'est sûr. La dernière mélodie que j'ai recrutée, c'est prise de gifle quand elle a refusé de se faire troncater. En fait, je suis le seul boss du matos. Tous les câbles qui font les Macs tombent vite sur un os, et tout le monde y a droit. Qu'est-ce que tu crois? Les lettres, elles aussi taffent pour moi. 26 mètres, chacun sa chacune. Deux claques sur les fesses et vite par ici la thune. C'est comme ça que dans mon job ça se passe. J'ai beaucoup d'employés et je ne paye rien à l'URSSAF. Et je n'ai pas eu depuis longtemps à sévir. Elles ont réalisé que leur plaisir est de me servir. Si elles le font bien, je les place dans des phrases. Promotion sociale pour elles, pour moi, ha, plus de liasses. Mais le fin du fin, c'est le couplet. Quand elles y sont arrivées, c'est qu'elles sont classées top dans mon carnet. Celles qui attendent de moi un geste en retour ont beaucoup d'espoir. D'ailleurs, elles courent toujours. Je table sur la qualité, pas la quantité d'un service organisé. Créé pour vous faire planer, on y trouve des plates, des croisées, des embrassés. Choisissez, chacune d'elles a sa spécialité. J'ai dû transpirer dur pour y arriver, mais ça sert d'avoir de la famille bien placée dans le métier. Le prox de l'apostrophe, le Jules de la virgule. J'aurais dû faire du foot, j'ai toujours eu le sens des putes. Surtout, ne viens pas taper à ma porte sans des Dutch marks. Ça se passe comme ça chez le Mac.
Ça se passe comme ça
chez le Mac.
Chez le Mac.
Ça se passe comme ça
chez le Mac.
Chez le Mac.
Ça se passe comme ça.
Voilà, donc on a créé La Friche, et la première production qu'on a faite avec La Friche, du coup on fait des ateliers et on fait de la production documentaire de manière participative. C'est une série qu'on a diffusée sur Mediapart il y a 3 ans, qui s'appelle Média, les quartiers vous regardent. Et l'idée, c'était de s'installer dans 5 quartiers de France différents et de proposer aux habitants en fait d'inverser le regard, c'est-à-dire de eux s'exprimer sur les médias plutôt que ce soit les médias qui s'expriment sur eux. Et donc il y a 5 épisodes, le premier à Clichy-sous-Bois, le deuxième à Amiens-Nord, le troisième à Beaumont-sur-Oise autour du comité Adama, 4e à Grenoble autour d'un collectif d'habitants qui avait attaqué France Télévisions en justice suite à une enquête exclusive, et le 5e à Marseille sur les médias de proximité et les automédias. Et en faisant le premier épisode à Clichy-sous-Bois, donc, où qui revient sur le fossé qui s'est créé entre les médias traditionnels et les habitants de Clichy-de-Montfermeil suite à la mort de Ziad Ebouna et à l'arrivée démentielle de hordes de journalistes pour couvrir les révoltes socio-urbaines. Pendant qu'on était à Clichy-sous-Bois, en fait, on a rencontré plein de gens, notamment Naofal, Mohamed, du coup, qui était à l'époque au Media Lab 93, qui nous ont dit, nous, on aimerait bien avoir une expérience de médiatique, un automédia à Clichy, ou alors un espace de formation. Enfin, on a besoin que les gens aient un endroit pour se former et prendre la parole. Et du coup, moi, je suis retourné voir du coup, le ministère de la Culture pour leur demander si c'était possible d'avoir une résidence de journaliste à Clichy-Montfermeil. Et donc, je suis là-bas depuis 2 ans, où on a monté une expérience très similaire au Labo 148 à Roubaix, qui s'appelle l'Étincelle Média, et qui est un projet en fait, qui rassemble une dizaine, vingtaine de jeunes de Clichy-Montfermeil ou plus largement des villes du 93 autour, et qui a à la fois un centre de formation, c'est-à-dire où On leur propose de se former à la caméra, à la radio, de monter des projets eux-mêmes. À la fois un projet d'accompagnement de médias de proximité pour voilà, permettre un accès à du matériel ou des choses comme ça, comme par exemple pour le projet de Nofal. Et un média, ou en tout cas un média qui est une plateforme qui met en avant les histoires, les récits et les productions qui sont réalisées par les jeunes. Et du coup, là, on fait ça depuis 2 ans. On commence à avoir plein de productions, voilà, il y a des émissions qui se sont montées à l'intérieur et tout ça. Et donc c'est un projet qui est très intéressant. Moi, en tant que journaliste, c'est un projet qui me déplace en permanence, donc qui est très plaisant à faire. Et toutes ces expériences-là m'ont un peu appris. Il y a 3 choses peut-être que je voulais mettre en avant et du coup je m'arrête là après. La première chose, c'est que ces espaces-là, pour moi, du coup, les automédias ou les médias de proximité, etc., sont des espaces qui doivent nécessairement être dans une expérimentation permanente, où on est tout le temps en train d'expérimenter, tout le temps. Et là, par exemple, le projet à Clichy, l'idée, c'était vraiment de partir des attentes des gens et des attentes des habitants. Et si les attentes des habitants, c'était pas de construire un média, on n'aurait pas construit un média. Et là, les attentes des habitants, c'était vraiment d'avoir de la formation et une plateforme de visibilisation, quoi. Et du coup, c'est ça qu'on a décidé d'offrir. Mais du coup, on est tout le temps en train d'expérimenter. C'est-à-dire que parfois, les jeunes, on ne sait pas si on doit appeler ce projet un média ou un centre de formation. Voilà. Mais du coup, c'est de l'expérimentation permanente et c'est ça qui est bien aussi. Et à chaque nouveau format, à chaque nouveau jeune qui arrive avec une proposition, du coup, on expérimente plein de choses. Mais ce qui est assez intéressant, parce que du coup, ça fait que moi, je suis pas du tout dans une posture de spécialiste, quoi. En fait, on va tester des nouveaux formats et des choses que moi, j'ai jamais testé avant. Et on va le faire ensemble et ça va être intéressant. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que toutes ces expériences-là, moi, elles m'ont appris, en tout cas venant plutôt des médias traditionnels à la base, que on surestime, je pense, dans le milieu des médias traditionnels, le rôle d'information des médias traditionnels, et on sous-estime le rôle social et identitaire que peuvent avoir des médias un peu différents, quoi. Et par social et identitaire, j'entends que c'est des lieux aussi de connexion, c'est des lieux où on va faire de la politique, faire du politique ensemble, où on va débattre, on va rencontrer des gens qui nous ressemblent, on va prendre du recul, réfléchir. Et c'est pas des lieux où nécessairement ce qui importe, c'est qu'on ait toutes les informations les plus précises possibles sur le quartier. C'est vraiment des lieux où ils jouent autre chose que juste de l'information, et notamment des questions sociales, de liens sociaux et des questions de représentation, je trouve. Et le troisième truc que je voulais dire, je regarde juste mes notes. Ouais, c'est que un truc que je me suis dit aussi, c'est que, et là, quelque chose qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de vendre des contenus aux médias traditionnels qui soient construits ailleurs qu'à l'intérieur des médias traditionnels. Parce que du coup, avec toutes ces expériences-là, en fait, j'ai l'impression que pour améliorer le traitement médiatique et pour changer en fait les médias et le système médiatique qui en ce moment ne va pas du tout, et on s'en rend compte à chaque nouvel événement politique, en fait, il y a un jeu de dedans et dehors, quoi. C'est-à-dire que il y a au Labo 148 à Roubaix, par exemple, il y a des cycles où en fait il y a des jeunes qui arrivent et qui repartent au bout de 2-3 ans parce qu'ils rentrent en école de journalisme ou ils sont embauchés dans des médias plus important. Et c'est un peu ce qui se passe nous à Clichy. C'est aussi qu'il y a des jeunes qui vont commencer là à tenter des concours d'école de journalisme et donc à intégrer des écoles de journalisme parce que bien formés et tout ça. Et moi, je suis content de voir qu'en fait, il y en a qui vont intégrer des médias traditionnels, mais je suis aussi content de voir qu'en fait, il y en a qui vont rester dans un truc de médias de quartier, médias de proximité, et un peu dedans-dehors, quoi. Et en fait, pour moi, ce truc de dedans-dehors, ça fait que en fait, ce lien qui va exister entre ces personnes-là va permettre, en fait, pour certains, d'être un grain de sable dans la chaussure de médias traditionnels, et pour nous, en fait, d'être aussi un grain de sable, mais de l'extérieur, quoi. Et je pense que ce mouvement-là peut permettre, en fait, de créer un rapport de force qui peut aider à améliorer le traitement médiatique des questions politiques de manière générale et des quartiers populaires ou des questions migratoires de manière plus précise, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que dans les projets de médias participatifs qu'on a montés, en fait, il y a des jeunes qui arrivent avec des profils extrêmement divers et que certains de ces jeunes vont voir naître pendant leur présence. Enfin, ils vont arriver pour des raisons qui sont diverses. Enfin, moi, à Clichy-sous-Bois, j'ai plein de jeunes qui arrivent. Pas parce qu'ils ont... Enfin, j'en ai aucun qui, au début... j'en ai un qui veulent devenir journaliste. J'en ai pas. J'en ai qui veulent parler d'un sujet, ou alors ils sont arrivés par des moyens détournés, ils trouvent ça sympa parce qu'on se réunit toutes les semaines et il y a des gâteaux. Y en a, ils veulent apprendre à filmer, mais pas forcément dans une logique professionnalisante. Et en fait, petit à petit, la logique professionnalisante, elle arrive parce qu'on commence à faire des contenus qui sont intéressants, parce qu'on commence à faire des contenus qui sont regardés. Et où là, ça commence à naître dans leur idée, mais chacun avec leur personnalité et tout ça. Et donc, certains et certaines à l'intérieur de ceux-là et de celles-là vont du coup tenter de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de passer les concours d'école de journalisme, de faire des stages dans des médias traditionnels et tout ça. Mais moi, je pense que l'incitation économique, elle est extrêmement faible. Parce qu'à aucun moment, en fait, ils avaient envisagé ça comme une carrière potentielle. Par contre, je pense qu'il y a un truc de... c'est un peu grisant. Enfin, moi, je vois les trucs qui marchent le mieux, par exemple, quand on fait par exemple, la Clichy. Et si jamais je veux faire venir des nouveaux et des nouvelles dans le projet, ou que je suis contacté par des habitants, des habitantes qui disent « Ah, ça m'intéresse, est-ce que je peux venir ?» Je vais toujours essayer de les faire venir un jour où on fait un direct. Où on enregistre une émission de radio ou une émission de télé en direct. Parce qu'il y a un truc un peu grisant dans le direct qui fait que tout le monde est un peu excité comme ça. Machin. C'est assez chouette. Et du coup, je pense qu'il y a un truc où c'est grisant et je pense qu'on a envie de continuer à en avoir. Quoi. Et nous, on est quand même limité par nos moyens extrêmement précaires et par le fait qu'on n'est pas beaucoup. Enfin, on est beaucoup, mais on est tous en train de se professionnaliser, etc. Donc, je pense qu'il y a un truc un peu excitant de passer le cap et de faire des trucs un peu costauds. Quoi. Et le deuxième truc, je pense, c'est que c'est quand même des métiers où on a très peu de reconnaissance. Et on a très peu de reconnaissance économique, parce qu'on est tous et toutes très mal payés, surtout quand on est pigiste ou documentariste, et encore plus quand on bosse dans des secteurs associatifs, etc., parce que c'est des projets qui sont financés par des subventions. Donc, en fait, on est dans une précarité permanente, qui n'est pas juste une pauvreté parce qu'on gagne peu à la fin du mois, mais qui est une précarité parce qu'on ne sait pas si notre projet continuera à être financé l'année prochaine. Et donc, je pense qu'il y a... Et donc, on est très mal payé, mais donc, l'enjeu, c'est d'avoir une reconnaissance symbolique. Par différents moyens. Là, nous, on est nommé au prix, un prix, on est finaliste d'un prix de médias local émergent là cette année. Et tous les jeunes qui participent au projet, du coup, ils sont hyper contents. Enfin, c'est vachement important, quoi. Et il y a un truc de reconnaissance symbolique que je pense qu'au bout d'un moment, dans un média, dans un automédia, on a du mal à avoir parce qu'on a du mal à casser le plafond de verre et à faire beaucoup d'audience. Ça, c'est un truc qu'on n'arrivera jamais à faire parce que c'est même pas l'objectif qu'on a. Et du coup, je pense qu'il y a un truc, à un moment donné, on a envie de faire des choses qui soient très très vues et d'avoir cette reconnaissance symbolique-là. Voilà.
HTP Radio, c'est fini.
Tchuss.
Tu peux nous retrouver sur htpradio.org.
Gure chereuse. HTP Zoo.
Création.
Allez, ciao, HTP.
Salut.
À plus dans le bus.
HTP. C'était chelou. Salut, ciao, HTP.